Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie de pop. Chers amis, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission de Thérapie Pop, l'émission qui explore avec vous la musique contemporaine des années 50 à demain.
T'as eu un doute?
Oui.
Tu savais pas?
Je suis un bout de cacahuète, Gauthier, pour tout te dire.
L'émission foot dans la présence.
Comme à l'accoutumée, c'est de Gauthier que je suis accompagné, vous l'avez entendu, pour la thérapie de cette semaine. Salut Gauthier.
Il est taquin, salut mon cher Théo.
Et on avait dit qu'on faisait dans le mainstream, Gauthier, mais je dois bien avouer que pour l'émission de ce jour... Eh ben tu m'as surpris. En effet, nous allons vraiment, mais alors vraiment sortir des sentiers battus, car nous allons évoquer une chanteuse française, je crois que c'est une première en 5 saisons, et pas des moindres, celle qui détient tous les records, celle qui possède une communauté de fans encore plus forte que celle d'Apple. Vous l'aurez compris, c'est bien de Mylène Farmer dont il va être question dans la thérapie de la semaine. Et c'est par l'un de ses morceaux les plus emblématiques que nous allons l'aborder, Libertine, sorti en 86 sur l'album Cendre de Lune.
Dont on fête les 40 ans, mon cher Théo.
Et bien entendu.
Ça ne te rajeunit pas. Et encore?
Toujours pas.
Moi, j'étais pas né, mais toi, oui.
Alors Gauthier, on va commencer par la création du morceau et tu vas nous apprendre qu'en réalité, la musique n'était pas du tout destinée à ce que Mylène Farmer y appose sa douce voix.
Et non, c'était quelque chose qui avait été enregistré en 84 par un dénommé Jean-Claude Dequéan. Théo, tu connais?
Hélas non.
Et moi non plus. Et qui s'appelait initialement L'amour tutti frutti.
En revanche, j'ai écouté cette version.
Et c'est vrai?
Ouais, c'est essentiellement instrumental.
Ok.
Et c'est punchy.
Et bien Mylène va le prendre, va le rendre un tout petit peu moins punchy peut-être, ou quoique, va l'adapter à sa sauce avec son cher Boutonna, qui l'accompagne à l'époque.
Lui
et,
on connaît, Laurent Boutonna.
Un peu plus. et ça va donner, Libertine, mon cher Théo.
Et comme le titre le laisse supposer, les paroles de cette chanson sont ouvertement féminines, voire féministes, Gauthier.
Oui, alors que la première improvisation qui vient à Mylène Farmer, c'est de dire « Je suis une catin ». C'est son premier vers, et bien Laurent Boutonna va adapter immédiatement l'idée qui lui plaît bien et va en faire le leitmotiv bien évidemment du texte, hein, je suis libertine, je suis une catin. Mm-hmm. Le titre deviendra par ailleurs plus pop que rock initialement pour le rendre certainement un peu plus bankable.
Mais j'imagine.
C'est-à-dire que la version de Kéan n'est pas très connue.
Et non.
Il valait mieux faire différemment.
Libertine sort un petit peu avant l'album sur lequel elle préfigure, une semaine avant, très exactement. C'est donc pas le premier single, mais bien c'est ce single qui va faire décoller l'album.
Oui, alors l'album c'est Cendre de Lune et Mylène Farmer à l'époque avait failli quasiment perdre son contrat parce que ça marchait pas du feu de Dieu. Avant justement, on en a déjà fait des émissions sur des gens qui sont au bord de la gadin avant de chanter la chanson qui va leur transformer leur carrière. Paradoxalement, d'ailleurs, le label préférait sortir d'abord une autre chanson de l'album plus grandir, dont tu ne gardes pas un souvenir impérissable, mon cher Théo, et c'est normal, qui est une chanson plus sage, moins provocative, mais finalement c'est Libertine qui fera décoller l'album. Alors je précise que moins provocateur, pourquoi? Les paroles parlent ouvertement de sexualité et notamment de sexualité féminine. On parle de catin, de libertine, etc. avec beaucoup de références, notamment à notre cher marquis de Sade, voire pas cher, ça dépend de comment vous l'appréciez. Auteur par contre que Mylène Farmer admirait, et la catin, la libertine, est bien évidemment une référence à Justine. Sous-titré « Les infortunes de la vertu ». Voilà, mon cher Théo. Tu m'avais sauté ce passage, mais ça me semble important
de
le dire.
Tu avais envie de parler de ça, tu as bien raison.
Bah non, mais le thème est important.
Et j'entends bien, Gauthier.
Voilà, donc je remonte dans mon... je fais mon émission.
Tu as raison, mais c'est ton émission, c'est ton choix.
Tu ne m'empêcheras pas de dire certaines choses.
Et si le morceau, en tant que tel, Gauthier, connaît un succès d'estime, c'est bien le clip qui l'accompagne qui va tout chambouler.
Et si tu le disais, Mylène Farmer est une icône avec une énorme fanbase, notamment parce que Mylène Farmer, c'est une identité visuelle. Et on pourra en reparler. C'est réalisé par... Laurent Boutonna, qui est vraiment absolument partout quand il s'agit de Mylène Farmer à cette époque. C'est un clip de quasiment 10 minutes comme Michael Jackson pouvait le faire à l'époque avec Thriller, qui est pensé comme une espèce de court-métrage à la Barry Lyndon, avec un peu de violence, de l'érotisme, une esthétique 17e, 18e, 19e. L'idée, hein, bien évidemment, c'est toujours la référence au marquis de Sade, et qui est parfois carrément comparé à du cinéma. Encore une fois, on est dans cette espèce de trip des années 80 où on fait des clips quasi cinématographiques.
Et c'est dans ce clip également qu'apparaît pour la première première fois un marqueur emblématique de Mylène Farmer, Gauthier, sa chevelure de feu.
Et la chevelure rousse. Et cette espèce de look que Mylène Farmer entretiendra pendant des années, qui est mi-androgyne, sulfureuse, tout à la fois très femme.
Parce qu'elle n'est pas rousse.
Mais elle n'est pas rousse du tout.
Je ne le savais pas, moi. Je l'ai appris en préparant cette émission.
C'est sa petite démarche artistique, mon cher Théo.
Mais c'est efficace.
Mais oui.
Et ce clip va révolutionner justement la notion de clip en France, Gauthier.
Oui, Mylène Farmer, c'est ce que je te disais, a vraiment apporté, alors c'est pas la première bien évidemment dans l'industrie musicale, mais elle va apporter ça en France, cette espèce de d'artiste total. Il n'y a pas que la musique, il y a aussi l'identité visuelle. Alors c'est tourné au château de Ferrières, avec figurants, costumes d'époque, etc. Ça sera même diffusé dans un cinéma parisien, le Mercury, en juin 86, et ça sera pour la France de l'époque une véritable petite révolution dans la notion de clip, puisqu'on dépasse très largement ce qu'on faisait à l'époque, qui était des choses plus...
Mais d'un point de vue marketing, c'est énorme.
Oui, ça a fait assez bien marché.
Tout chez Mylène Farmer, d'un point de vue marketing, est énorme. Elle est très forte.
Oui, elle est très forte. Notamment avec sa couleur de cheveux.
On se l'écoute, Gauthier ?
Ah, bah, avec plaisir. Dans le studio, mais malheureusement, il faut reprendre l'émission.
Je vais pas rebondir là-dessus, Gauthier. On le sait, on l'a dit, Mylène Farmer est une femme de record, et Libertine devient la rampe de lancement de la fusée Farmer, Gauthier.
Oui, qui n'était pas une fusée à l'époque, ça finira dans le top 10 et ça y restera très très longtemps. Elle sera certifiée disque d'argent en 86, les disques d'argent, les disques d'or, des trucs que la génération actuelle ne connaît plus.
Non.
Et propulsera l'album comme un succès bien plus que son premier single.
C'était disque de platine même,
oui.
Qui était encore plus fort, je crois.
C'était le top,
100 000 albums vendus.
Il y aura des rééditions, bien évidemment, en 87, avec des best-of, des collectors, avec de multiples versions de Libertine, des remixes, des lives, des remasters. Enfin, c'est une chanson centrale dans la discographie de Mylène Farmer. Tu me disais, Théo, que c'était pas ta préférée, certes, moi non plus,
ouais.
Mais c'est par elle que tout commence.
On le sait, tu as tout à fait raison.
T'as pris une longue respiration.
Non,
là.
Parce que je me disais, est-ce que j'ai une chanson préférée de Mylène Farmer ? Je me posais cette question.
Tu les aimes toutes.
Voilà. Et on le sait, l'univers de Mylène Farmer est pour le moins atypique entre l'emo et la dark romance. Et si elle le distille au fur et à mesure de sa carrière, elle va commencer dans ce clip, justement, de Libertine.
Oui, et bon, on va dire faire un hommage au Marquis de Sade dans la France des années 80, alors qui est pas la France actuelle, on va dire, une France qui est encore peut-être un peu pudique, etc. Et bien, elle va arriver telle une bombe, encore une fois, on l'a dit, mais androgyne, bourreau, victime, un peu mi-ange, mi-démon, puis très sexualisé, ou tout du moins qui parle de façon très décomplexée de sexualité. On a entendu quand même papa, on a violé mon cœur ou mon corps, je sais plus exactement,
mais mon cœur.
Ouais, c'est grosse ambiance. Elle va apporter, on va dire, le clip aussi, cette espèce de monarchie sensuelle, etc. Elle va être une figure d'émancipation un peu dans cette France un peu pudique. Elle va être cette femme qui va accepter de ne pas être qu'une chanteuse, mais d'être un peu plus, et notamment une icône d'une nouvelle sexualité et d'une nouvelle liberté.
Et comme on peut s'y attendre, l'héritage de Libertine est presque infini, puisque 40 ans plus tard, nous-mêmes, nous en parlons encore, mais il n'y a pas que nous, Gauthier.
Oui, alors, les fans en parlent, il y a des rééditions. Il y a une esthétique, Libertine, tu parlais des cheveux roux, etc. Quand elle a fait une nouvelle tournée, la tournée Nevermore, il y avait beaucoup de visuels qui étaient inspirés de cette époque-là. Et puis, moi, je me souviens, on avait un live, je crois que c'était à Bercy ou un truc comme ça, le truc où elle sortait d'une araignée ou d'une main, là, enfin, qui était complètement invraisemblable, où il y avait des grandes bottines. Enfin, bon, c'était Mylène
Farmer. Ces concerts sont très, très réputés.
Hein. Impressionnant, impressionnant. Et elle va devenir aussi quelque chose qui est intéressant à noter, c'est que elle va apporter mais vraiment quelque chose de complètement générationnel. Et pour les petits-enfants que toi et moi on était à l'époque, on pouvait chanter je suis Libertine, je suis une catin, sans même savoir ce que ça voulait dire, et ce qui, je pense, devait beaucoup perturber des gens qui étaient nés dans les années 50 ou 60 à
l'époque. Nos parents, en l'espèce.
Je ne voulais pas les citer, mais d'entendre des enfants chanter je suis une Libertine, je suis une catin, quand tu étais né dans les années 50 et que ta fille chantait ça à 12 ans dans la cour d'école, tu devais être un peu paniqué. Et ben c'est ça la révolution Mylène Farmer, si on peut appeler ça une révolution. Vous en ferez chacun votre choix. Théo, je n'ai plus rien à dire. Voilà.
Bien.
Tu peux clôturer ton émission.
Allez, la tienne. L'émission touche à sa fin.
Je vais te décharger toujours toi, c'est mes thèmes, mon émission.
L'émission touche à sa fin, chers auditeurs. Vous l'aurez compris, l'icône Mylène Farmer est née en 86 et elle n'a pas fini de faire parler d'elle, comme l'a montré justement son Nevermore Tour dont tu parlais, qui s'est allé entre 2023 et 2024, qui a quand même réuni plus de 700 000 spectateurs en France, en Suisse et en Belgique. Sachez que nous aurons le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle thérapie et nous vous parlerons de Tame Impala, ça te dit ?
Mais ouais, mec.
Et ben voilà. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute sur le site de Radio Présence et des radios partenaires, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi, Gauthier.
Salut, Théo.
Salut, salut.